Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans la deuxième partie de cette interview de Saïd Assadi pour parler de son parcours et du 360 Paris Music Factory. Alors, entre accords croisés quand même et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu encore d'autres choses jusqu'à aujourd'hui.
Alors,
en 2019.
C'est vrai qu'accord croisé, évidemment, quand j'ai créé, au fur et à mesure, à part ces histoires des têtes d'affiches, j'étais vraiment orienté, d'une part, mettre l'axe principal sur la voix. Je fais flashback sur mes sentiments par rapport à la voix, Jacques Brel, Léo Ferré, etc. Je disais, voilà, bon, nous avons des artistes, donc on connaît les auditeurs, le public, ne connaissent pas la langue. Donc, c'est le point de départ, le choix, c'était l'émotion qu'on peut ressentir à partir des voix, quelle que soit la langue. Voilà, donc ça, c'est l'axe principal de l'accord croisé. Et d'autre part, vraiment, avec cet objectif de, d'une part, travailler avec des artistes enracinés dans leur culture, et néanmoins ouverts vers les rencontres et les encourager pour rassembler des artistes des différentes cultures pour créer des œuvres ensemble, voilà. Dans ce, oui. Ça, c'est donc c'est accord croisé. Si on regarde, évidemment, il y a deux parties. Il y a d'une part, au départ, le répertoire représentatif de chaque culture qui est l'objet de disques, l'objet de concerts, etc. Et en même temps, avec ce regard dans la durée, comment cet artiste enraciné peut être encouragé, rencontrer d'autres artistes enracinés et créer des œuvres plutôt transculturelles. Voilà, donc ça, c'est la ligne de l'accord croisé. C'est pour ça que le nom, les accords qui se croisent, était très important au départ, comme un choix. Voilà.
Oui.
Et donc, là, on commence, mais très vite, vu que ma motivation et mon fond d'activité, c'est réfléchir comment développer les artistes inconnus. Je découvre que la musique enregistrée et le lien synergique entre la musique enregistrée et la scène est extrêmement important pour créer des actualités pour ces artistes qui sont pas connus. Voilà. Donc, à partir de là, je travaille sur le disque, mais au départ, en licence chez différentes maisons de disques, évidemment. Il y avait Ovidis au départ, et après Virgin Classic EMI, Harmonia Mundi, voilà, c'est des maisons de disques avec qui je commence de travailler. Mais quand même, je remarque que ce synergie est un peu difficile de créer. Mais ça avançait. À un moment donné, on rencontre le début de la crise de disques. Et moi, je m'orientais dans mes réflexions de plus en plus vers livre-disque. Oui, c'est-à-dire que le disque puisse avoir devenir un objet avec un livret intéressant, richement documenté, mais en même temps facile accès, écrit par des journalistes qui ont certains niveaux ou écrivains pour attirer le public. Ça veut dire que essayer pour les gens qui aiment la musique ou cette musique, les amener plus loin dans la connaissance de la culture concernée ou les œuvres qui ont été créées. Voilà. Donc, évidemment, ça nécessitait des dépenses plus importantes pour la production et surtout fabrication, la fabrication, écriture, etc. Évidemment, quand j'ai commencé à expliquer mon idée avec les maisons de disques concernées, bien que j'arrivais convaincre en disant, voilà, notre public, notre clientèle, c'est une niche, il ne soit pas gêné s'il doit payer 1 euro, 2 euros de plus pour avoir tel objet. Et en plus, ça arrêtait le copie de CD, etc., qui était à l'époque.
Il fallait apporter une valeur ajoutée à l'objet.
Oui, voilà. Donc, bien que j'arrivais à convaincre les chargés de projet chez les labels ou bien directeur artiste du label, mais ça bloquait chez le commercial. Parce que tout le monde disait, nous, on est dans une époque qui essayait de baisser les coûts avec la crise de téléchargement, etc. Tu viens de dire, voilà, il faut augmenter le coût. Bon, c'est pas possible. Donc, c'est là que j'arrête la licence. J'ai dit, d'accord, c'est moi-même qui va produire ces livres-disques et on va mettre en distribution chez vous. Donc, c'est le début des premières livres-disques et CD chez Accord Croisé qui datent de l'année 2003, quoi. Et on est aujourd'hui, je ne sais pas, près de 90 références.
Et vous êtes toujours là?
Oui, on est toujours là.
Bon, donc là aussi, tu as déjoué les pronostics défaitistes.
Oui, c'est-à-dire qu'on a établi ce lien, c'était plutôt constructif. On avait les maillons en main, la musique enregistrée et aussi les spectacles vivants pour faire ce qu'on pouvait faire. Évidemment, je ne dis pas qu'on a fait grand-chose, mais au moins, on avait cette liberté de créer cette synergie, le moment velu pour la musique. Et après, bon, à partir de 2007-2008, j'ai vu que de plus en plus, il y avait des baisses par rapport à l'espace médiatique ou autre pour les artistes, ce qu'on dit en développement. C'est-à-dire que, bon, à un moment donné, au niveau de l'Observatoire, il y avait plusieurs pages sur la musique. Musique d'ailleurs ou aussi, où on avait même le monde de la musique avait d'espace pour la musique du monde. Et après, on observait de plus en plus réduction de ces jours d'espace. On parle même pas de la radio ou la télé, etc. Les télés des années 90, France 2 ou autre, etc. Il y avait des émissions importantes, des artistes différents. Enfin, il y avait plein de choses.
Et il y avait des fenêtres pour exposer,
voilà, tout à fait,
qui se sont réduites.
Je ne sais pas. Et tout ça, j'observais, ça devenait de plus en plus mince, quoi. Donc, bon, évidemment, je ne pouvais rien faire. Et d'autre part, je voyais que les artistes ont de plus en plus besoin de visibilité. Et cette visibilité, ça ne peut se passer qu'à Paris, parce qu'on est dans un pays hyper centralisé. Donc, c'est là que l'idée de créer un festival un peu atypique au Fil des Voix, qui soit dédié aux artistes avec leurs nouveaux projets, et leur nouvelle création avec actualité discographique, le disque est sorti quelques mois avant ou avant l'autorisation festival.
Et ça, le festival Au Fil des Voix, c'est quelle année le début?
Première édition, c'est 2008. Donc là, 2021, on va commencer 14e édition. Donc là, évidemment, c'était encore très difficile parce que c'est un festival. Tous les copains que j'ai consultés, il y a un festival de musique tout le monde, parce qu'en plus, il y a toujours, on aime bien cette cloisonnement, toujours dire oui. Quel genre de musique, caser les choses dans un tiroir, j'en sais rien. Musique tout le monde.
Musique du monde, tout de suite, c'est niche, quoi. On imagine le petit public, la petite case.
Ouais. Si le reste des pays ou le reste des musiques ne sont pas dans ce monde, c'est un autre monde. Bon,
bref. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a cette notion-là aussi. Musique du monde, ça veut dire que ce n'est pas la musique centrale, quoi. Ce n'est pas la musique principale.
Et donc, là, évidemment, tous les amis que je consultais, les professionnels, qui sont les vieux routiers de la musique, notamment musique du monde, ils me disaient, bon, c'est fou, un festival. Est-ce que la mairie veut? Est-ce que la région veut? Le ministère veut? Non. Il trouvait un peu, je sais, prétentieux de pouvoir, parce que bon, les festivals, souvent, il y a pouvoir public derrière. Mais c'est le pouvoir public, que ça soit la collectivité, etc. Au départ, il y a certaines garanties de subventions, etc. Bon, au départ, pour démarrer. Alors que là, il n'y avait personne. Personne. Oui. Et puis, bon, j'ai dit, voilà, on va faire la première édition 2008, sans vraiment compter. Et puis, pour le deuxième, Déjà, 2008, c'était une édition qui a eu un peu d'écho. Tout de suite. Et 2009, évidemment, j'ai commencé à solliciter les sociétés civiles. La SACEM en premier, qui nous a aidé très vite. Et aussi après, les autres sociétés civiles, ADAMI ou SPEDIDAM ou d'autres, etc. Et ça a commencé, que nous avons commencé 6 soirées à l'Alhambra, avec double plateau, ça veut dire 12 concerts, mais au fur et à mesure, ça s'est développé. Et là, évidemment, depuis quelques années, on est sur 3 semaines. Près de 3 semaines, ça veut dire, sauf, excepté les dimanches. Quoi.
Et toujours même, dans le même lieu ou...
Non, non, c'est-à-dire qu'on était longtemps à l'Alhambra jusqu'à l'édition 2019. Et aussi dans les salles, dans le 20e, dans les petites salles. Mais depuis l'édition de dernière édition, 13e édition, nous sommes installés dans le 18e. Donc, nous avons l'ouverture à la Cigale, clôture au Trianon et le reste au 360.
Eh bien, bravo.
Oui, merci.
Donc, du festival, on arrive au 360 ou il y a d'autres choses encore entre les deux?
Non, il n'y a pas d'autres choses, mais 360, en réalité, c'était aussi en lien avec cette réflexion à partir de la crise de 2008. C'est-à-dire que...
Oui, parce que, en fait, faut que tu nous expliques qu'est-ce que c'est ce lieu, parce que, en fait, c'est très riche. Hein.
Ouais. Alors, justement, l'idée de 360 est née à partir de mes observations par rapport aux baisses de la programmation et activités des artistes en développement. C'est que ça soit la crise de 2008 ou ça soit l'ensemble de tendances qu'on observait un peu en lien avec certaines concentrations, que des artistes de tête d'affiche, d'une part, leur nécessité de présence qui avait été provoquée, surtout au départ, c'est vrai qu'après 2008, avec les baisses de pouvoir d'achat, etc., le public, d'une part, avait une tendance d'aller vers les valeurs, enfin pour les artistes qu'il connaissait. Et d'autre part, c'était une sorte de mouvance qui a été alimentée pour, disons, des grands espaces, des grands concerts qui se construisaient au fur et à mesure. Et avec l'entrée des grands investisseurs sur le marché, de la musique, spectacle vivant et le concert. Évidemment, on voyait les conséquences sur les artistes en développement. Par exemple, les lieux demandaient moins des concerts de ces catégories d'artistes. Après, il y avait plus des artistes en développement au niveau des nombres des concerts. Par exemple, nous, on sentait cette baisse à travers le travail de booking par accord croisé. On voyait aussi le baisse de budget qu'ils proposaient par rapport au passé. Alors donc, en se penchant sur la question, on voyait, c'est vrai, il y a d'une part un budget de musique qui restait presque stable ou avec très peu de progression. Par exemple, une étude de CNV à l'époque sur les festivals en France entre 2008 et 2014, parle de 3% d'augmentation de budget musical pour les plateaux artistiques. En revanche, quand on regardait l'augmentation des contrats de session pour les têtes d'affiche, si vous faites un point aujourd'hui, vous voyez que par rapport à 2008, 2007, etc., il y a des augmentations de 200, 300, 400, 500%.
Ah oui, c'est énorme.
Alors donc, c'est une sorte de déséquilibre qui s'installe de plus en plus dans l'économie de spectacle vivant. Et évidemment, ce qui me rappelait exactement ce que j'ai observé en France par rapport à prise de contrôle dans l'industrie agroalimentaire par la grande distribution. Parce qu'encore, je retourne mon arrivée en France, dans les quartiers parisiens où je vivais, 10e ou 5e, et où, quel que soit l'endroit, je sortais sans connaître la langue, pouvoir parler français. Et quand je sortais pour faire mes courses, à travers les commerces de proximité, je pouvais avoir des contacts avec les gens. je rencontrais les gens de quartier, même je pouvais communiquer quelques mots et trouver des amis. Il y avait un tissu social grâce à ces commerces de proximité. Et il y avait aussi le petit supermarché de quartier. Et après, au fur et à mesure, quand il y a eu toutes ces grandes surfaces, la grande distribution, et tous ces commerces de proximité étaient obligés de mettre la clé sur la porte. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le constat aujourd'hui? C'est-à-dire que les producteurs sont dans une situation de plus en plus difficile, sans oublier certains qui se sont suicidés, et d'autres qui arrivent difficilement à arrondir à la fin du mois. Et là, nous, les consommateurs, on a découvert qu'il y avait plein de choses bizarres dans nos assiettes, grâce aux pesticides ou autre chose, etc. Voilà, comme il dit Pierre Rabhi, je ne sais pas si c'est exactement les mots qu'il utilise, il dit aujourd'hui quelqu'un qui mange à la place de dire bon appétit, il faut dire bonne chance, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il trouve dans nos assiettes. Donc voilà. Et quel est le constat de cette concentration? Quel est le constat de disparition des commerces pour proximité? Voilà, et c'est le bilan. Et moi, j'ai eu le sentiment qu'on est en train d'aller sur les mêmes orientations par rapport à la culture. On nous a, dans le domaine culturel, et je ne sais pas si c'est exactement les mots qu'il utilise, il dit aujourd'hui quelqu'un qui mange à la place de dire bon appétit, il faut dire bonne chance, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils trouvent dans nos assiettes. Donc voilà, oui, et quel est le constat de cette concentration? Quel est le constat de disparition des commerces pour proximité? Voilà, et c'est le bilan. Et moi, j'ai eu le sentiment qu'on est en train d'aller dans les mêmes orientations, sur les mêmes orientations par rapport à la culture. On nous a, dans le domaine culturel.
Dans le domaine culturel, mais oui. Voilà. Mais c'est les mêmes modèles économiques qui sont plus imposés avec une avidité de profit exacerbée et au détriment de... C'est un rouleau compresseur, hein, ce modèle économique qui est imposé sur l'alimentation, sur le... J'ai fait aussi un podcast avec L214 par rapport à l'élevage intensif. C'est toujours, toujours plus, au détriment du climat, au détriment de la planète, au détriment du tissu social, des relations humaines. Oui, c'est le grand débat du moment, hein, je pense.
Mais c'est le grand débat du moment doit avoir aussi le lieu sur la culture. Parce que ces jours d'alimentation,
oui.
Évidemment, si on bouffe mal, quand même... On peut se rendre compte au fur et à mesure. Il y a un sketch de Blanche Gardin qui est très intéressant sur ce sujet. Et quand on mange mal et on se regarde dans le miroir, évidemment, on voit qu'on est en train de grossir, on dit attention. Mais la culture, à partir du moment où on est juste dans les divertissements des choses qui sont pas forcément, qui n'ont pas le sens, comme le rôle que la culture doit jouer dans la cohésion sociale, on devient de plus en plus, comme dit Blanche Gardin, en lien avec la télévision, on devient con. Mais quand on devient con, on ne le voit pas dans le miroir. On ne dit pas devant les miroirs, ça y est, fais attention, tu es en train de devenir con. Non. Oui, on se rend pas compte.
Ah oui, c'est encore pire, on s'en rend pas compte, tu veux dire.
Quand on sent qu'on se rend compte, n'est-ce pas? Alors, donc ça, c'est, je pense que cette concentration par rapport à la culture, c'est encore plus dangereux que l'alimentation. Parce que l'alimentation, évidemment, notre système digestif ne fonctionne pas bien, on fait attention, on grossit, ceci, cela. Mais là, sur ce parti, c'est très, très délicat, surtout dans une société où nous avons besoin d'être de plus en plus apaisés, nous avons besoin de plus en plus sortir de communautarisme, de repli, etc. Mais comment? Comment on peut aller dans ce sens-là? Quelle est la solution? Évidemment, nous, en France, on a une politique publique qui était plus intéressante que beaucoup d'autres pays, l'engagement de pouvoir public dans la culture. Néanmoins, depuis longtemps, on observe que le pouvoir public, quelle que soit la raison économique, financière, budgétaire, etc., n'arrive pas à répondre aux besoins culturels des différentes villes, grandes villes, petites villes, les zones rurales, etc., pour accessibilité à la culture d'une façon facile et pour encourager la diversité de la création. Donc ça, c'est une question fondamentale, surtout dans nos sociétés actuelles. Si on veut vraiment essayer de trouver des solutions, que ce soit par rapport à l'apaisement de la société, que ce soit sur la question de l'intégration, mieux vivre ensemble, qu'on n'arrête pas de répéter, mais comment, quels sont nos dispositifs? Je ne parle pas de seulement des dispositifs par rapport à l'emploi, etc. Ce n'est pas que ça, n'est-ce pas? On peut avoir des problèmes économique individuellement, mais en même temps rester ouverte vers les gens. Être ouverte pour échanger avec les autres, pour écouter les autres, etc. etc. Et tout ça, c'est évidemment le rôle de la culture. C'est-à-dire, quand les gens ont peur de telle ou telle culture de minorité, c'est aussi la raison de cette peur, c'est une sorte de méconnaissance. Ignorance et méconnaissance.
L'ignorance.
Tout ça, ça touche la politique culturelle et cette politique culturelle, forcément, de mon point de vue, doit encourager la création des lieux culturels proches aux gens, surtout dans les quartiers populaires, que ce soit à Paris, en banlieue, dans les zones rurales, etc. Et là aussi, que des artistes comme des avant-gardistes puissent jouer leur rôle et que les artistes puissent avoir des moyens et possibilités pour créer à nouveau, pour travailler ensemble. Et toute cette situation est aujourd'hui rencontre des risques importants. C'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pensé qu'il faut lancer un nouveau modèle économique. Un nouveau modèle économique dans la culture, pour la culture.
Dans la culture.
Qui soit possible d'une part pour les collectivités et d'autre part aussi pour les entrepreneurs culturel qui se donne cette mission de faire la culture pas seulement pour l'aspect commercial des choses et aussi pour que la culture joue son rôle dans la cohésion sociale. Voilà, c'est ça de mon point de vue le vrai débat et comment ça peut devenir possible. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé, voilà, il faut créer un lieu qui puisse s'adapter d'une part sur le fond par rapport à cette philosophie que je suis en train d'expliquer, et d'autre part, sur la faisabilité économique, soit capable de baisser, réduire les coûts sans jouer sur le manque de qualité.
Oui, sans que ça se répercute voilà. Sur le,
tout à fait.
Avec une production
cheap. Donc ça, c'est
cheap,
la réflexion. Après, ça donnait l'essence à cette idée de 360. Bon, le 360, c'est quoi? C'est un petit peu, moi, j'avais plutôt envie de dire les bras de Shiva, mais je trouvais ça serait connoté très vite indien, quoi. Surtout là, on a besoin de, ici, on a très tendance de mettre une sorte d'étiquette sur chaque chose. Donc, je me suis plutôt penché sur le 360. Le 360, ça veut dire quoi? C'est un contenant, un bâtiment, un lieu où l'artiste, avec le contenu, peut faire tout dans le même lieu. De conception, la création, résidence, répétition, enregistrement, montage de des spectacles vivants et la diffusion en live, la diffusion en digital, tout ce que nous avons besoin pour chaque projet.
Avec des équipements modernes, pas des équipements avec des bouts de ficelle, avec un bon capital de départ en termes de matériel.
Avec des équipements le plus avancés dans notre temps actuel et avec un bâtiment même sur le plan digital connecté pour que chaque espace soit lié à la régie. Bon, voilà, donc c'est ça le principe. Ça veut dire d'une part, il y a une philosophie, il y a un modèle économique alternatif et d'autre part, évidemment, tout ce qui est le volet réduction des coûts. Voilà.
Les artistes peuvent même dormir en résidence. Il y a un restaurant aussi.
Il y a évidemment la salle de répétition et enregistrement. Il y a la résidence artiste 4 studio pour que les artistes puissent dormir et même travailler dans leur studio parce que avec des boîtiers digitales et câbles optiques, ils sont connectés à la régie, qui peuvent travailler depuis leur studio d'hébergement. Et pareil avec la salle des spectacles, le restaurant, le bar, évidemment, les bureaux, et avec les bureaux pour l'ensemble de notre pôle d'associations et entreprises culturelles, et ainsi que de grands bureaux pour les start-up qu'on souhaite accueillir pour qu'ils travaillent sur la transition numérique pour la musique. Donc ça, c'est l'ensemble de bâtiments.
Donc vous êtes dans Paris, oui. dans le quartier de la Goutte d'Or. Et il y a combien de mètres carrés, combien d'étages, qu'on ait une idée un peu comme on est en format audio.
C'est,
on
n'a pas si du tout voulez, il y a en tout 1100 mètres carrés sur 6 niveaux, enfin 5 étages, mais 6 niveaux. Parce que bon, il y a le studio d'enregistrement, répétition et le sous-sol. Au rez-de-chaussée, nous avons le restaurant et le bar. Après, première, deuxième, troisième étage, c'est la salle des spectacles. Quatrième, c'est les bureaux et pépinières pour start-up. Et ensuite, cinquième étage, c'est la résidence artiste. Et sur le toit, on est en off-top avec petit jardin potager pour les aromatiques qui sont utilisées pour la cuisine avec une vue extraordinaire de 360, surtout côté de Montmartre, où on voit le Montmartre différemment. Pas le Montmartre qu'on connaît juste dégagé, mais Montmartre avec tous les toits et les immeubles qui l'entourent à Paris 18e. Voilà. Nous avons ouvert notre lieu le 21 janvier pour fermer le 13 mars. C'était un vendredi. Mais heureusement, je ne suis pas fataliste, je ne l'ai pas dit, c'est le pire signe pour...
Oui, parce que c'est vrai que ça a été... Dans la culture, mais aussi tous les commerces, tous ceux qui ouvraient, ouais. qui se sont retrouvés avec ce couperet qui est tombé tout de suite. Et en plus, je crois que tu avais mis des fonds propres dans ce
film et sur ce son. C'était assez complexe parce qu'au départ, quand j'ai eu cette idée, c'était 2009, je l'ai écrit, j'ai envoyé pour la mairie le 18e pour trouver un lieu en location. Parce que je ne pensais pas du tout aller construire un bâtiment. C'était une idée, je cherchais un lieu qui s'apprêtait de mettre en œuvre cette idée, que je trouvais une idée intéressante et expérimentale. Mmh. Mais on a tourné en rond, même les adjoints de maire de 18e, Karine Roland, Afaf Galbeto, etc., elles m'ont aidé, les deux adjoints, pour trouver des lieux, mais il n'y avait rien en location qui s'apprêtait à ce genre de, disons, aventure. Ensuite, par hasard, 2011, je suis tombé sur un bâtiment dans le 18e qui allait être démoli et dans les plans d'aménagement de la Goutte d'Or, qui était quand même un plan intéressant avec évidemment des logements sociaux d'une part, rénovation de certains bâtiments, etc. Il voulait la CEMAVIP qui était en charge de cet aménagement, avait fixé l'objectif que ce soit un espace d'activité. Mais j'ai compris que l'hôtellerie ne voulait pas, parce que bon, peut-être c'était la Goutte d'Or ou c'était pas assez grand, j'en sais rien, quelle chose a la raison. Et que les petits commerces, évidemment, c'était pas leur tasse de thé. C'est quand même bon. Et donc, nous, on a pensé, moi j'ai rassemblé 6 autres associés, 7 associés, qui sont tous des individus impliqués dans la culture. De différentes activités culturelles. Il y en a un qui est l'administrateur de l'Orchestre de Champs-Élysées, musique classique, d'autres universitaires pour le théâtre et le corps, ou un autre qui est metteur en scène, un autre pianiste, et un collègue à moi qui travaille depuis 19 ans avec moi pour Accords croisés. Ouais. Donc l'ensemble qu'on a, chacun a essayé de rassembler ce qu'ils avaient comme plan d'épargne ou ceci ou cela. Pour rassembler un montant à peu près 25% de coûts qui avait été estimé au départ par les économistes et les architectes par rapport à ça.
D'accord. Oui, parce qu'en fait, il fallait reconstruire un nouveau bâtiment.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Un nouveau bâtiment entièrement nouveau. Et là, le vrai challenge, c'était le parti de convaincre les banques pour les crédits. Là, j'ai commencé par la caisse des dépôts, mais ça n'a pas fonctionné, bien qu'on était dans un quartier populaire. J'ai commencé par toutes les banques à Paris. J'ai vu pas mal de banquiers à charge de production. D'une part, ils disaient « le projet est intéressant », mais il y en a qui m'encourageaient en disant que voilà, votre projet est très risqué. Pourquoi vous avez cette possibilité? Pourquoi vous construisez pas 6 étages ou 5 étages de bureaux? On vous demande même pas, dans ce cas-là, à porter 1 euro. On finance tout parce que c'est valeur sûre immobilière, vous allez louer et que nous sommes garantis. On peut mettre comme garantie hypothèque et il n'y a rien plus intéressant que ça. Bon, c'est une approche purement financière et immobilière. Je dis non, mais la question, c'est que c'est pas ça que je veux faire. Je veux construire un livre. Bon, bah, pour eux, c'était étonnant. Une salle de spectacle, un studio enregistrement, ces genres de choses-là, à la goutte d'or, machin. Voilà, bon. Ça n'a pas fonctionné. Ça a pris 5 ans et finalement, par une chance, j'ai eu une information par rapport à une banque belge qui était à l'origine une fondation hollandaise, une banque éthique. Et là, je les ai contactés via une amie. Et on les a rencontrés et évidemment, ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Ils ont accepté de donner le premier crédit qui était 2 400 000 euros. Et après, une fois qu'ils ont accordé ce crédit, les autres sont devenus plus attentifs. Par exemple, il y a eu Crédit Coopératif qui est rentré dans le chat. Et IFSI qui a joué un rôle important. Il se portait garant auprès de la banque belge. Et après, il y a eu France Active, Paris Initiative, oui. Et PIE, etc. Vous voyez, après, j'ai réussi à rassembler aussi les autres établissements financiers pour compléter le montant nécessaire pour qu'on puisse construire. Il y a eu évidemment, après acceptation de crédit par la banque, la ville de Paris, aussi la région, CNM et la commission commune en la ville et CNV de l'époque qui ont apporté à peu près aux alentours de 14% d'aide pour l'investissement. C'est-à-dire ça a commencé au fur et à mesure se mettre en place, mais c'est vrai que ce projet, s'il n'y avait pas des contraintes financières par rapport aux banques, le financement au départ, on pouvait réaliser dans 4 ans. Mais tous ces contraintes ont provoqué une durée qui était 9 ans.
9 ans entre l'idée de départ et la première pierre?
Non, entre l'idée de départ, ça fait 11 ans. Parce que l'idée de départ, c'était 2009. À partir du moment où je trouvais ce terrain, c'était 2011, jusqu'à l'ouverture, à peu près 9 ans.
D'accord, oui, il faut être persévérant. Hein.
Oui, il faut être tenace. Non, tenace, on dit.
Oui, tenace, oui. Ça marche aussi.
Bon. Donc, il faut surtout croire et avoir confiance à nos idées.
Oui, et puis l'expérience aussi, quand même, dans le domaine un peu administratif, financier, et montrer qu'on a fait ses preuves, parce que là, c'est des gros montants, quand même.
Ça, je n'avais pas du tout d'expérience dans ce domaine. C'était la première fois que je demandais un crédit. Ça fait la première fois que je sollicitais les collectivités. Mais c'est ça que je veux dire, c'est à partir du moment où on est convaincu, on croit et on veut vraiment réaliser, c'est possible. Il y a des choses énormes qu'on peut apprendre dans nos pratiques. On va voir les banquiers, on échoue, d'accord, on comprend, c'est pas le même langage, c'est pas la même attention, etc. Comment il faut adapter, comment on peut argumenter que voilà, l'économie n'est pas en opposition avec la culture. La culture, c'est fondamental et l'économie, c'est un moyen en service de la culture. C'est pas une sorte d'opposition. C'est pas contre. C'est ça aussi une question, une vision par rapport à la culture qui est bloquant cette opposition entre la culture et l'économie. Et ça, c'est, il faut à un moment donné en finir avec ça. Parce que à partir du moment où on regarde cette histoire-là, ça veut dire on attend que toute la question de la culture soit réglée par le pouvoir politique et collectivité. Et que nous, on se déresponsabilise comme citoyens par rapport à la culture. Alors que non, nous avons aussi des responsabilités. quand nous avons des responsabilités par rapport à ce qui se passe dans l'industrie agroalimentaire, dans notre environnement, nous devons aussi s'impliquer, s'approprier. Si on est entrepreneur, on doit aussi prendre des risques dans ce domaine. Comme un, disons, producteur agroalimentaire qui prend ce terrain, qui cultive, une année, les récoltes sont intéressantes, d'autres non. Ou ça veut dire qu'il faut s'impliquer. On ne peut pas dire, voilà, non, c'est les politiques qui doivent régler le problème de la culture. Ça veut dire que ce n'est pas notre affaire, quoi. Voilà. Donc, c'est ça aussi la question de 360. Si c'est expérimental, évidemment, c'est expérimental par rapport au pouvoir public et par rapport à la collectivité. On dit qu'aujourd'hui, la société civile est capable de créer un lieu. Vous, vous ne pouvez pas créer des équipements pour ce genre, pour des raisons budgétaires ou quelle que soit la raison. D'accord, faciliter les choses pour les entrepreneurs qui sont quand même fidèles aux valeurs de la culture. Voilà, donc c'est ça la question. Donc, c'est tous les partis doivent quand même s'impliquer. C'est pas juste le pouvoir public ou c'est pas juste les entrepreneurs. Surtout en France. En France, on a un truc qui dit, voilà, ça c'est public, le reste c'est privé. Mais non, il y a une quand même différence fondamentale entre les investisseurs internationaux, privés ou les grands investisseurs par rapport aux artisans. Entrepreneurs qui sont des artisans comme nous, qui essayent d'assumer leurs responsabilités avec des activités qui ont du sens. On ne peut pas mettre tout dans le même panier, ce sont des privés. Il y a aussi peut-être d'autres modèles à inventer. D'autres modèles à inventer avec des régulateurs, avec des cahiers des charges, en disant, voilà, par exemple, nous, sur le plan économique, tout ce que j'ai travaillé me montre que on peut, dans les lieux comme le nôtre, on peut avoir un modèle économique 75% recettes propres, 25% de subventions. Ça veut dire ce qui change radicalement par rapport aux lieux publics et le budget pouvoir public, qui est plutôt dans le sens inverse, minimum 75% subvention, maximum 25% de recettes. Pour moi, c'est une question sérieuse qui peut encourager beaucoup des entrepreneurs, beaucoup des acteurs culturels, dont nous sommes très, très nombreux, qui travaillons depuis des décennies dans ces genres d'activités, et ça présente beaucoup d'emplois. Voilà, c'est exactement un peu comme les débats que nous avons sur l'environnement, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on est prêt à sortir de nos dogmes juste publics et privés? Dire, voilà, c'est pas une sorte de fatalisme de rester figé sur les dispositifs ou les conceptions qui étaient très, très intéressantes pendant telle ou telle période, mais aujourd'hui n'arrivent plus à s'adapter à cette mutation que nous observons. Et cette ouverture, moi, je pense, voilà, donc nous, notre, disons, objectif, c'est montrer que c'est possible. Et je pense que nous avons réussi relativement à avancer. Nous avons aujourd'hui une sorte de bienveillance de la ville de Paris qui a beaucoup évolué par rapport au, disons, le premier regard qui date de 2014-2015, qui ne croyait pas du tout que ça soit un projet réaliste. Donc, c'est ça que je souhaite, qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Et après, il y a évidemment aussi ce quartier. Moi, j'ai choisi le 18e et la Goutte d'Or depuis le début parce que c'est le quartier, c'est l'arrondissement que nous avons vraiment tous les différents composants de notre société actuelle.
Et alors, décris-nous un petit peu ce quartier pour ceux qui... Le podcast, il est écouté un peu partout dans le monde, en fait. Donc, il y a beaucoup d'endroits qui ne connaissent... Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, dans ceux qui... celles et ceux qui vont écouter, qui peuvent être en Inde ou au Brésil. Ou... Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce quartier et aussi les a priori, justement, qui peuvent... qui ont pu peut-être freiner, d'ailleurs, des investisseurs, parce que ça fait partie du challenge aussi que tu t'es donné.
Oui, bien sûr, c'est vrai que la Goutte d'Or, on connaît aussi Château Rouge. Évidemment, on appelle Château Rouge la Goutte d'Or. Évidemment, il y a quelques Américains qui sont venus pour acheter des vêtements chez un créateur africain. Évidemment, ils cherchaient un château qui soit rouge. Il n'y a pas un château avec une couleur rouge dans ce quartier. Mais c'est le nom qui est Château Rouge, évidemment, la Goutte d'Or. C'est assez connu comme quartier parce qu'à l'origine, c'était un quartier ouvrier français. Et ensuite, il y a eu des vagues d'immigration parce que c'est les quartiers populaires, à un moment donné, avec dominants des Juifs qui étaient dans ce quartier. Ensuite, pas mal, surtout en lien avec l'Algérie, l'indépendance, etc. Il y avait pas mal de Kabyles algériens qui sont installés ici et d'autres Maghrébins, toujours aussi certains Africains. Et toutes ces dernières années, évidemment, on a beaucoup plus Africains, de différents pays africains, Sénégalais, Maliens, Côte d'Ivoire, etc., etc. dans ce quartier. Néanmoins, c'est un quartier où les habitants français blancs sont très attachés à ce quartier. C'est vrai que ce quartier, la Goutte d'Or, dans les passages il y a 10 ans, 15 ans, etc., ou quelques années, était lié aussi à... Parfois, il y avait des prostituées, il y avait distribution de vendeurs de drogue, etc. Il y a tout ça. Le challenge pour moi, c'est que ce lieu qui est quand même moderne, premièrement, sur le plan architectural, s'intègre bien dans l'environnement, même si c'est neuf, etc. On a beaucoup travaillé avec nos architectes sur cet aspect. Deuxièmement, que ça soit un lieu ouvert vers le quartier, contrairement à un lieu culturel que parfois on a l'impression que ce sont des lieux fermés, accessibles à certaines catégories de la population.
Donc là, il est ouvert comment ?
Il est ouvert, toute la rez-de-chaussée, c'est des baies vitrées. Donc, tous les passants regardent à l'intérieur. Ils peuvent venir très facilement prendre un café, un verre, etc. et savoir qu'est-ce qui se passe dans ce lieu culturel.
Et oui, là, parce que c'est ouvert, enfin, en temps hors confinement, c'est ouvert dès le matin pour le petit déjeuner, je crois.
Oui, enfin, pas forcément, pas encore le petit déjeuner, mais à partir de 10-11 heures, quoi, pour prendre un café et puis, enfin, parce que bon, le petit déjeuner, on n'a pas pensé que ça soit utile. Parce que vous, qu'après, il doit, qu'on doit fermer à minuit, etc.
Oui, c'est ça, voilà, ça fait un peu court. Il faut quand même se reposer un peu dans tout ça.
Et donc, oui, c'est au départ, je me souviens, mon débat, le moment où on avait nos plans architecturaux avec les commissaires concernés, qui nous déconseillaient sérieusement de ne pas faire des baies vitrées. Et j'ai dit, monsieur le commissaire, quand même, un lieu culturel, ce n'est pas un caserne de police, c'est un lieu qui doit accueillir d'une façon conviviale les gens, les passants, les habitants.
Ils vous le déconseillaient pour des raisons de sécurité ou pour
le quartier, de raisons de sécurité, cambriolage ou autre chose. Mais ben justement, aujourd'hui, si tu viens, tu verras qu'on a une mixité très intéressante dans ce lieu, que ce soit les gens de quartier et les autres qui viennent d'ailleurs. Il y a vraiment, que ce soit blanc, noir, quel que soit l'origine, la couleur, et surtout beaucoup de femmes qui vient à plusieurs pour boire, manger, travailler avec connexion de Wi-Fi ou ceci ou cela. Et je suis extrêmement content sur ce volet. Ce volet parce que j'avais peur que ça devienne un lieu bobotisé. Et là, je veux dire qu'un des avantages de Covid-19, c'était aussi ça. Ça veut dire que nous avons ouvert. Parce que, en lien avec cette histoire de Covid, j'ai décidé que Combline, à la place d'être déprimé et se sentir victime en disant, ouais, après 9 ans, c'est passé, etc., essayer de s'adapter d'une façon très active à la situation, en respectant, mais essayer de faire tout ce qui est possible pour que la musique puisse continuer, les artistes puissent travailler, rencontrer leur public, etc., etc. C'est une question fondamentale que j'ai désigné ensemble avec notre équipe pour vraiment tout. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup plus pendant cette période qu'avant, avec une équipe réduite. Donc, nous avons ouvert le lieu, le restaurant avec les baies vitrées vers la terrasse à partir de début juin. Et à partir de 20 juin, on a organisé les week-ends musicaux. 14 concerts en tout, on a fait pendant les week-ends musicaux pendant l'été, qui a fait connaître notre lieu à beaucoup d'habitants de quartier et l'arrondissement. Il y en a énormément qui venaient en disant « c'est la première fois que je découvre votre lieu, je suis passé X fois, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, est-ce que je dois rentrer ou pas, etc. etc. » Mais là, je découvre, c'est formidable. Pourquoi ? Parce que pendant des confinements, première vague de confinement, les gens, ils ne s'éloignaient pas de leur quartier. Et là, évidemment, c'était une occasion extraordinaire pour ancrer le 360 au sein de quartiers et des 18e arrondissement. Donc, c'est pour ça que je suis ravi. Je pense, indépendamment de tous ces problèmes que nous avons, je ne vais pas lister par rapport à notre lieu, même, on n'était même pas éligible pour PGO, prêt garanti d'État, parce qu'il y avait un trou dans la raquette des dispositifs. Il fallait se baser sur 25% chiffre d'affaires de l'année d'avant, alors que nous, on avait et ouvert oui. 2020, on n'avait pas des chiffres d'affaires 2019. Tout ça, c'était des casse-têtes pas possibles que je ne peux pas perdre notre temps pour signaler. Néanmoins, il y avait aussi cet aspect positif qui nous a permis de vraiment être créatifs, être actifs, de faire évidemment tout ce qu'on pouvait, que ce soit les week-ends musicaux, après l'ouverture de la salle à partir du 25 septembre jusqu'à fin octobre, et aussi quelques travaux avec Arte Concert pour captation et retransmission directe et différée. Et
sur
Arte Concert, oui. Et aussi beaucoup des projets résidence et enregistrement que nous avons organisés dans cette période. Même là, il y a le groupe Hervé Sang, le musicien, l'artiste parisien, avec ses collègues et trois artistes qui viennent d'arriver de Sénégal, sont en résidence, en train de travailler dans le studio. Évidemment, le dimanche, il y a captation, retransmission de Yalda, qui est une cérémonie très importante en Iran et le monde d'Asie centrale, Afghanistan, etc., comme une fête importante pour la nuit la plus longue de l'année. On l'appelle le Noël persan. Voilà, c'est une histoire en lien avec une mitraïsme. Je ne vais pas rentrer dedans parce que ça, sinon on ne va pas terminer. Donc, tout ça, on est actifs et on a essayé aussi de souder notre, disons, équipe, notre vision par rapport à notre travail. Oui. 360 aussi par rapport aux habitants, par rapport au quartier. Voilà.
D'accord. Donc, on va bientôt terminer. Pour les semaines, les mois qui viennent, j'imagine que c'est pas mal d'incertitudes aussi, comme tout le monde dans le milieu de la culture en ce moment, enfin du spectacle vivant. Est-ce qu'il y a quand même des projets ? Qu'est-ce qu'on peut annoncer ? Des choses à voir en ligne ? Des concerts à voir en ligne ?
Oui.
Des artistes à découvrir ?
Les concerts que nous avons captés, que nous captons, ils vont rester en ligne.
D'accord.
C'est-à-dire que ça soit sur Arte Concert ou ça soit sur notre site, évidemment, oui. Les gens, ils peuvent regarder. Mais, encore une fois, nous avons une programmation. C'est-à-dire que chaque fois, nous avons commencé à programmer en lien avec les dates annoncées. Nous avons commencé une programmation après le 7 janvier. Déjà, il y avait une programmation novembre, que nous avons annulé une vingtaine de concerts, certains annulés, la plupart reportés pour les dates précises qui figurent sur le site. Nous avons évidemment envisagé à partir de l'ouverture le 7 janvier, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, les programmes sont en ligne, mais on se concentre avec beaucoup plus de conviction sur l'ouverture de 14e édition de festival qui commence 25 janvier au 12 février. Donc, toute la programmation est en ligne, on peut voir, et que je voudrais que vraiment qu'on réserve. C'est que, quand je disais tout à l'heure, cette histoire de la culture, c'est l'affaire de nous tous. Parce que pour cette édition, c'est la première fois que nous rencontrons des problèmes majeurs économiques. Pourquoi ? Parce que tu sais sans doute que le mois de septembre cette année, il y a eu une loi qui a été passée par la Haute Cour de la Justice de l'Union européenne qui a supprimé une sorte de perception par les sociétés civiles françaises, à peu près 25 millions d'euros par an, qui pouvaient être attribués pour aider les créations artistiques. Et évidemment, l'Union européenne a considéré que c'est les droits des producteurs américains. Bon, vrai ou faux, j'en sais rien. Ça, c'est notre débat. Néanmoins, ça provoquait une sorte de fragilité, davantage fragilité sur la diversité de la création. Et nous, notre festival, nous avions 70 000 euros de subventions qui présentaient un tiers de notre budget de festival par ces sociétés civiles. Que tout est gelé, c'est impossible de les avoir. Donc, nous avons décidé malgré tout faire le festival parce que ça fait un an que ces artistes n'ont pas joué devant leur public. Ça fait un an qu'ils attendent en travaillant, etc. Ce n'est pas possible, juste pour des raisons économiques, arrêter cette édition et attendre une sorte de retour à situation normale. Voilà. Oui. C'est pour ça, là, vraiment, si sur le site de Festival au fil des voix, sur nos sites, on fait appel aussi au public qui puisse nous aider.
Oui,
soutenir pour que ce festival puisse dérouler comme il faut.
Le message est passé, je crois. Je vais mettre les liens vers le site du 360 et puis le site de Au fil des voix. Merci. Voilà, Saïd Assadi, un grand merci. Merci pour avoir pris le temps de nous faire plonger à la fois dans cet univers, dans ta vie, dans ce parcours riche. J'espère que toutes celles et ceux qui auront écouté cette interview, ce podcast, auront envie de venir à la rencontre de ton travail, du travail de tes équipes et surtout des artistes que tu défends encore et toujours et qui, je l'espère, vont pouvoir revenir très vite sur scène. Et qu'ils peuvent déjà découvrir sur les différents sites internet que l'on a mentionnés. Ils peuvent les écouter, ils peuvent les voir. Et j'espère que ça leur donnera envie de venir au plus près partager tout ça.
Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Et j'espère aussi beaucoup de succès pour le travail que tu fais. Nous avons besoin aussi de plus en plus de ces genres d'initiatives pour qu'on puisse communiquer ensemble les uns avec les autres.
On essaie de créer chacun ce qu'on peut, oui, là où on est. J'espère à très bientôt au 360. J'espère pouvoir venir très vite goûter. J'ai vu qu'il y avait des très bons avis sur la restauration. Oui. J'ai vu des photos, ça m'a donné bien envie.
Justement, là, c'est ce que disait Yehudi Menuhin quand on travaillait ensemble. On dit, voilà, pour découvrir une culture, on peut commencer soit par la musique, soit par la cuisine. C'est les premiers éléments basiques qui peuvent nous attirer vers une culture ou pas.
Oui. Donc, voilà. Je dirais même pas soi et soi, je dirais et.
Et, pardon, oui, et.
Les deux. J'ai rencontré Yehudi Menuhin aussi, je l'avais rencontré à un gala de l'UNESCO.
Oui.
Et j'avais eu la grande chance de pouvoir discuter un petit peu après avec lui.
Ah, oui.
Et j'étais toute jeune, c'était un spectacle incroyable. Je me souviens qu'il y avait Michel Petrucciani, il y avait Montserrat Caballé, il y avait Yehudi Menuhin, enfin c'était que des pointures incroyables. Et à la fin de ce gala, donc toute timide, j'étais allée le voir, j'avais échangé un petit peu, il y avait son attaché de presse, je crois, qui était à côté de lui. Les gens étaient debout, il y avait un genre de cocktail. Et on avait discuté un petit peu, et je ne sais plus en fait, mais je me souviens que j'avais dit quelque chose et qu'il m'avait serré dans ses bras. Et j'en garde un souvenir très, très, très ému.
Juste pour finir, je raconte quelque chose. C'est-à-dire, sur ces discussions, ces échanges par rapport à la question des femmes, le lendemain, quand on s'est revus, il a dit cette histoire des femmes, ou pourquoi seulement des chanteuses dans cet événement Voix de la Paix, m'a beaucoup préoccupé cette nuit. J'ai beaucoup réfléchi et là que j'ai mesuré qu'il y avait, je sais pas, 7, 8, 9 ou 10 femmes qui ont joué un rôle important pour que je devienne Yehudi Menuhin. Il a commencé de raconter l'histoire de sa naissance avec sa mère. Il dit, mon père était aux États-Unis un juif immigré et ma mère une juive convertie. Et quand elle était enceinte de moi avant ma naissance, il fallait trouver une habitation plus grande avec une chambre de plus. Donc évidemment, il regardait, bon là on est des années, je ne sais pas, 20, 30, où les Juifs sont maltraités par les Américains, ou mal vus, j'en sais rien. Évidemment, il regardait des annonces pour aller visiter, donc il trouve une habitation très intéressante au niveau de surface, le quartier, le prix. Ils vont pour visiter, mais ils disaient, mon père qui avait une tête juive reste en bas et ma mère qui était américaine monte pour visiter. Oui. Et les choses se passent très bien avec le propriétaire parce que c'est extraordinaire. Vraiment, c'était ce qu'il cherchait, l'appartement à tous les niveaux. Oui. Mais le moment où il fixe le rendez-vous pour signer le contrat, le moment de dire au revoir, le propriétaire, il dit, madame, vous savez pas comment je suis content que ce soit vous qui preniez cet appartement parce que j'avais peur de tomber sur les Juifs. Et ma mère, enfin sa mère, qui avait le ventre assez enceinte, il dit, monsieur, moi, je suis une Juive et mon bébé, que ce soit une fille ou un garçon, je vais l'appeler Yehudi pour que tout le monde sache que c'est un Juif. Donc, à partir de là, il racontait le caractère détermination de sa mère que depuis l'enfance avait joué un rôle très important dans l'éducation, le travail qu'il faisait d'une façon acharnée dans la musique, le violon, etc. Yehudi, voilà.
Merci beaucoup à toi.
J'espère à bientôt à Paris. Hein.
J'espère aussi, vraiment. Bonne continuation. Je croise les doigts, on croise les doigts. J'invite Merci. Tout le monde à venir faire votre connaissance, à parler autour de vous de tout ça pour que la culture reste vivante, que les artistes surtout puissent continuer avec toutes ces économies fragiles et ces choses sensibles, justement. Ouais. Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup et j'espère à très bientôt.
J'espère aussi. Bonne continuation.
Au revoir, merci.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Ever googled your own name? Prepare for a shock. Because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.